Europe 1,
11h midi 30,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre émission dédiée au bien-être, au mieux vivre et à votre santé, tous les jours en direct de 11h à 12h30. Alors aujourd'hui Julia, quel est notre programme ?
Eh bien Mélanie, on va démarrer comme tous les jours avec une question, la voici. Faut-il être en couple pour être heureux ? Non mais c'est vrai, après tout, depuis qu'on est petit, on nous incite à chercher notre moitié. On a l'impression que ne pas être en couple, c'est avoir raté sa vie. Mais en fin de compte, pourquoi tant d'injonctions ? Alors on va faire le point sur toutes ces questions avec notre invitée, la psychanalyste et sexologue Cécilia Como. Et si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas sur le 3921, sur le répondeur d'Europe 1 ou encore sur le compte Instagram de l'émission.
Ensuite Julia, à 11h35, on passera à la partie santé, bien-être de ce magazine et on va parler de notre digestion, ou plutôt du fait qu'on la connaisse très mal, car selon notre invitée, le docteur Kaina Oussedik, elle est biochimiste alimentaire, c'est bien là la clé de nombreux problèmes, ballonnements, douleurs abdominales et même prise de poids. Elle va donc nous révéler le secret des combinaisons alimentaires qui améliorent la digestion et permettent même de maigrir, qui sait ?
Ah oui, qui sait ? Et pour en finir, à partir de midi, ce sera notre séquence tendance. Et là, on sera bien accompagnés avec Mélanie. Notre bande de chroniqueurs nous rejoindra. Et aujourd'hui, avec Philippine Darblay, on va passer à table avec les meilleures huiles d'olive du moment. Elle nous donnera même quelques astuces pour bien napper, sublimer nos assiettes à la maison. Cécile Como, elle, a testé pour nous un simulateur de vieillissement.
Et puis, en fin d'émission, vous avez intérêt à rester jusque-là puisque Sophie Braffman, notre experte mode, s'est lancée une mission de la plus haute importance à l'occasion du lancement de la Fashion Week à Paris. Elle est partie à la recherche de cette perle, de cette femme licorne, la parisienne. Existe-t-elle vraiment, mythe ou réalité ? Elle nous dira tout.
Europe 1.
Eh bien voilà, bien fait pour vous, c'est parti. Et Mélanie, ce matin, on se pose donc la question suivante. Faut-il être en couple pour être heureux ?
Et oui Julia, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que c'est obligatoire de trouver l'âme sœur, d'être deux, d'avoir des enfants. Eh bien on verra qu'il y a peut-être d'autres façons de s'épanouir dans la vie. Alors avant de rentrer dans le détail, lui en tout cas, il est en couple professionnel avec nous.
Je vois que vous lisez la presse People, effectivement, on est ensemble depuis quelques mois,
c'est
professionnellement.
Ça. Pour ouvrir cette émission, c'est donc Clément Lanoux. Bonjour Clément.
Bonjour, comme chaque jour, je suis parti avec mon micro à la rencontre des Français et j'ai essayé de répondre à cette question. Faut-il être en couple pour être heureux ? Faut-il être heureux pour être en couple ? Si j'avais été un vrai journaliste, si j'avais vraiment bossé, j'aurais fait appel à de nombreux psys, à des spécialistes de l'amour. Mais moi, non. J'ai
comme
fait
vous
appel
êtes un escroc,
exactement à des enfants de 8 ans.
On n'a pas besoin d'être en couple pour être heureux. Par exemple, moi, je suis heureuse et je ne suis pas en couple.
Ouais, c'est pour ça que moi, j'ai une amoureuse. J'ai plusieurs amoureuses, en fait. Et c'est pour ça que je suis très heureux.
Alors ça, c'est la version des enfants. J'ai demandé également aux adultes, est-ce qu'il faut être en couple pour être heureux ?
En couple, oui, mais avec des enfants, c'est encore beaucoup mieux.
Bah, pas forcément. Moi, je suis heureuse quand je suis avec mes copines. Hein.
Non, il faut avoir une belle vie.
Oui, mais il faut être avec la bonne personne.
Et il faut surtout que la bonne personne nous aime toute notre vie.
Oh, c'est mignon, c'est mignon. Mais ça, c'est quelques réponses parmi tant d'autres. La vraie réponse que j'ai eue, celle qui regroupe un petit peu toutes les personnes à qui j'ai pu poser la question, c'est ça.
Pas forcément, même si voilà, même si je suis en couple depuis un bon moment, combien de personnes sont heureuses et vivent seules en fait ?
Bah moi je pense qu'il faut déjà être bien tout seul avant d'être bien à deux. Moi je suis célibataire depuis un petit moment et franchement je suis bien mieux que certaines de mes copines qui sont casées.
Et bam, le petit tac,
les copines,
on les embrasse, voilà. Non mais globalement, j'ai l'impression que toutes les personnes en couple, quand on leur parlait de célibat, avaient les yeux qui pétillaient un petit peu, envie de faire une pause.
Et l'inverse,
c'est vrai, évidemment, tous les célibataires rêvent du couple parfait. Donc voilà, je me suis retourné encore une fois vers les enfants et je leur ai dit, voilà, parlez-nous justement d'amour. Est-ce que l'amour, ça dure ? Est-ce que c'est ça le vrai bonheur ?
Un amoureux, ça peut durer tout le temps. Après, si tu te sépares avec lui, ça peut durer quelques mois ou quelques années.
Et un amoureux, ça sert à quoi ? Ou une amoureuse ?
Avoir un petit partenaire, quoi. Ça veut dire que t'as quelqu'un qui te fait des trucs à ta place. Un amoureux, ça sert à avoir du réconfort, de pas être tout seul chez soi. Si on veut avoir des enfants, on a un amoureux pour ça.
Les amoureux, ça se fait des bisous, ça se tienne la main. Et aussi, ils sortent toujours ensemble et ils sont toujours à côté.
Et en fait, les amoureux, pour savoir mieux, c'est un petit cupidon qui s'appelle Cupidon. Oh. Il tire une flèche Après, l'autre, il devient amoureux de l'autre.
Moi, mes amoureux, qu'est-ce que je leur ferais? S'ils m'écoutent pas, je les ferais passer la serpillière et après, bah, il devra aller me faire tout ce que je veux.
Voilà.
C'est une future amoureuse assez autoritaire. Hein,
très
quand
autoritaire.
Même,
donc, oui, chacun sa vision du couple. En tout cas, rien n'est obligatoire. Mais si Cupidon vous envoie une flèche, prenez-la, mettez-vous en couple.
En plein
cœur. Vivez votre vie.
Oui, merci beaucoup, Clément Lanoux. On vous retrouvera bien sûr demain avec un autre reportage et de nouveaux témoignages souriants, émouvants.
Toujours.
Parfois, à chaque fois, ce sont des petites pépites d'émotion. Merci, Clément Lanoux. Tout de suite, il est temps de présenter notre invité du jour. C'est vous, Cécilia Como. Bonjour.
Bonjour, Julia. Bonjour, Mélanie. Bonjour,
bonjour,
Clément.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste et sexologue et pour la plupart des Français, on l'a compris avec votre reportage, Clément, être amoureux, c'est synonyme d'être heureux. Mais le couple, c'est vraiment le socle dans les relations sentimentales ?
Alors, pour beaucoup de gens, je dirais oui, mais enfin, vous avez noté qu'on ne parle pas que de couple, on parle de couple amoureux.
Mmh,
Donc déjà, c'est une grande nuance parce que le couple, c'est aussi un lieu où on peut vivre des choses abominables et très tristes. Donc je pense que, évidemment, ce n'est pas ce couple-là qui fait rêver. D'ailleurs, c'est aussi celui-là qui réconforte les célibataires. Celle qui disait...
ça leur fait plaisir de voir des couples malheureux, on a l'impression.
Exactement. Et puis, il y a cette notion quand même, c'est très récent le fait qu'on soit... en couple amoureux. Hein, ça date du 19e siècle. Avant, c'est pas ce qu'on demandait à un couple. On lui demandait de nous sécuriser, pas de nous rendre heureux. Parce que heureux, c'est quand même une notion un peu relative. On peut être heureux en 2021 et ne plus l'être en 2023. Mais on voit quand même qu'il y a une forte propulsion vers le couple. Parce que quand on regarde sur les pays qui ont énormément été dans les mariages arrangés, comme l'Inde, la Chine, on voit bien que tout ce qui va être roman à l'eau de rose, cinéma, ça cartonne. Donc on voit bien quand même que le couple amoureux fait toujours rêver. Hein. Ouais,
pourquoi on pense qu'il est obligatoire d'être en couple, pas nécessairement amoureux, justement, c'est pour faire comme tout le monde, on est quand même toujours dans cette injonction-là en 2021.
Alors, c'est vrai que le couple, c'est une norme qui s'est imposée pour signifier l'engagement amoureux. Mais alors moi, je pense qu'en tant qu'être humain, au-delà des normes culturelles, religieuses ou sociales, on a un vrai besoin, une vraie aspiration à être préféré et à être unique.
Choisi.
Et donc à être choisi. Et je pense que c'est ça la vraie force du couple monogame, hein, puisque c'est l'idée du couple à deux. Elle est là. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à se défaire de cette... Moi, je pense que c'est un besoin vraiment d'être préféré et on montre une préférence non seulement quand on tombe amoureux, mais quand on invite quelqu'un à faire couple.
Clément ?
Mais quand on voit l'explosion des sites même de relations extra-conjugales et on n'a pas les chiffres.
Ah oui, vous avez repéré
officiels.
Ça, vous.
Mais bien sûr, il y a les bus là en ce moment qui passent avec ça. On sait qu'il y a énormément de couples qui se trompent aussi. Est-ce qu'on n'est pas justement dans un schéma qui ne correspond pas forcément à peut-être la moitié de la population qui est mal, mais qui par schéma classique, par éducation, par religion, comme vous disiez, vont vers le couple ?
Bah alors, Clément, ça c'est... Alors je l'ai en plus testé avec un patient qui trompait énormément et qui finalement s'est séparé, ce qui était mieux, et qui n'a pas du tout les relations sexuelles en termes de fréquence qu'il avait avant. Parce que ce qu'on oublie, c'est que l'infidélité se porte sur la transgression. C'est ça qui est intéressant.
Quand il n'y a plus rien à se transgresser,
et
c'est
là,
plus intéressant.
Voilà, si vous séparez, que vous êtes célibataire, vous n'avez plus cette transgression. Donc je pense que c'est surtout pour ça que les sites d'infidélité et que l'infidélité excite. C'est parce qu'elle permet justement de transgresser et de se sentir effectivement très dynamisé par l'adrénaline et la prise de risque.
Cécilia, comment on va poursuivre avec vous sur ce sujet du couple, de l'obligation ou non d'être deux pour être heureux. On verra aussi qu'il y a peut-être d'autres façons de s'aimer, sans vivre sous le même toit par exemple, qui peuvent permettre de s'épanouir tout autant. On y revient très vite sur Europe 1.
Europe 1, 11h, 12h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Valérie s'ennuyait dans les bras de Nicolas. Mais Nicolas, celui-là ne le savait pas.
Ça fait du bien, Lerita Mitsuko sur Europe 1. Vous êtes dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être. Et on se pose ensemble une question pas commune. Faut-il nécessairement être en couple pour être heureux? Alors pour développer ce sujet, vous êtes avec nous, Cécilia Como. Vous êtes psychanalyste et sexologue. Alors si dans notre société, le couple peut paraître comme essentiel, beaucoup décident aussi aujourd'hui de ne pas être en couple. C'est important de dire que le couple, c'est un choix et non une nécessité.
Alors, le couple, c'est absolument pas une nécessité, ça c'est certain, c'est une structure psychique et organisationnelle qu'on choisit. C'est vrai, comme disaient les petits-enfants, ça protège, ça sécurise, mais ça n'a, comment dire, c'est pas une... Ça peut pas être une nécessité, puisqu'il y a plein de gens qui sont très heureux sans être en couple.
Mais nous, aux enfants, on leur fait même sentir cette nécessité d'être en couple un jour, parce qu'on est les premiers à dire, quand ils sont petits, alors t'as une amoureuse à l'école, t'as un amoureux, enfin cette espèce de... T'as besoin d'être deux pour être accompli. Quoi.
Oui, mais alors ça, Mélanie, je crois que ça rassure surtout les parents, parce que je pense qu'en fait, au travers des amoureux, puis il s'agit pas seulement d'avoir un amoureux, une amoureuse.
Mais ça leur met la pression un peu, non ?
Non, mais je pense que... Alors, ça leur met la pression, évidemment, si on leur pose la question...
Tous les jours.
Tous les jours. Ouais, mais je pense que ça rassure les parents, parce qu'encore une fois, ça signifie mon enfant être suffisamment plaisant pour être choisi et que quelqu'un veuille faire couple enfin, avec lui. Et on se rend compte qu'il y a quand même une notion de réciprocité, parce qu'on ne dit pas à son enfant « Est-ce que tu as une amoureuse ?» sous-entendu, mais elle s'en fout de toi. Ouais, ce qu'on espère, c'est « Est-ce que toi aussi, tu es aimé en retour ?»
Clément.
Et jusqu'au CM2, la phrase « J'ai plusieurs amoureuses » ne choque personne. C'est-à-dire que quand on a 35 ans, « J'ai plusieurs amoureuses », c'est vrai que ça peut avoir d'autres répercussions.
C'est vrai, mais parce que c'est comme pour la sexualité. Ouais. Hein, quand on est tout petit, on a une curiosité sexuelle et on voit absolument pas pourquoi est-ce qu'on devrait s'empêcher de poser des questions. On voit les petites filles quand elles soulèvent leur jupe et montent leur culotte. Il y a quelque chose. Mais... Comment dire ? C'est peut-être ça qui fait penser que là, un peu à la Rousseau, que là, on a la nature profonde.
On se met des freins après.
Et qu'ensuite, y aurait un changement. Je ne suis pas bien sûre. Je pense que de toute façon, biologiquement parlant, il y a quand même une évolution dans notre rapport à l'autre. Dans le jugement, on est beaucoup plus sensible au jugement de l'autre sur nous-mêmes quand on est plus grand, à l'adolescence par exemple, que quand, mais même vers 7-8 ans. On voit bien que les pères d'enfants, filles, garçons, se séparent en fait. On joue beaucoup moins ensemble, les filles commencent à faire des groupes de filles, les garçons. Donc je pense que naturellement, comme ça, on va un peu plus se regrouper. Il y a quelque chose là aussi que je pourrais dire presque naturel. Quoi.
Alors sexuellement, on en parlait, est-ce qu'on peut être plus épanoui en étant célibataire? En tout cas, c'est ce qu'on nous vend comme rêve. Ah bah, quand t'es célib, tu enchaînes les relations.
Tu papillonnes, voilà. Et c'est génial.
Voilà. Alors ça, c'est pas vrai. C'est un fantasme cette histoire, parce que contrairement à ce qu'on pense, on a plus de rapports sexuels quand on est en couple que quand on est célibataire.
Même avec les applis.
Alors, et justement, les applis reflètent mal, en fait, la réalité. D'abord parce que c'est pas pareil d'être célibataire dans une grande ville, dans une moyenne ville et dans une petite ville.
Eh oui,
il se passe pas la même chose. Et puis, il y a eu une étude IFOP en 2017. Alors, je dis 2017 parce que c'est pas des études qu'on fait tous les ans. Et quand elle a été refaite, elle a été faite en 2020 au confinement. Et là, évidemment, il y avait... Alors, même si, malgré tout, c'est-à-dire, évidemment, en couple, on faisait plus l'amour, puisque les célibataires étaient coincés avec interdiction de sortir de chez eux. Mais en 2017, quand on a posé la question « Combien de rapports sexuels avez-vous eu durant les 4 dernières semaines ?» 10% des personnes en couple ont répondu « Aucun rapport ». D'accord. 56% des personnes célibataires ont répondu « Aucun rapport ».
Ah oui, donc,
et quand on leur a demandé à l'autre bout du continuum, on s'est interrogé sur combien avaient eu plus de 3 rapports dans les 4 dernières semaines, ils étaient 15% en couple et ils étaient 6% célibataire.
Vous l'avez fait pendant le confinement, peut-être?
Non, oui, c'est 2017, c'est pour ça que c'est ça.
C'est avant.
C'est des chiffres de 2017, mais en fait, c'est des chiffres assez stables, hein, parce que dans le sens où, systématiquement, quand on interroge sur... Alors, après, il y a sur le monde, mais c'est vrai que dans les pays moins riches, moins occidentaux, c'est en couple, évidemment, qu'on a plus de rapports sexuels. Je parle de quantité, hein, pas du tout de qualité, même si je pense que la qualité est la même en couple, célibataire. célibataire. Les chiffres sont stables, en fait.
Cécilia Como, être célibataire, aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance, notamment parmi les jeunes célibataires, on va dire, c'est de faire des plans dodo. Donc, c'est de trouver des copains, entre guillemets, pour aller dormir et faire des câlins, hein, finalement. Il n'y a pas de sexualité. Ça veut dire qu'ils ne sont pas si heureux que ça, les célibataires. Alors, en tout cas, ceux qui pratiquent cette tendance-là du plan dodo.
Alors, j'avais fait une émission ici, il y a 2 ans, sur les plans dodo avec Ève Roger. Donc, on avait entendu beaucoup de gens témoigner. Et essentiellement, c'était des espèces de duos qu'on forme pour s'apporter de l'affection, de l'écoute. C'était un peu le pendant des applis sexuelles, puisque là, il y avait zéro sexualité, mais qu'on n'avait pas envie forcément de passer toutes ces soirées tout seul. Alors à la question, pourquoi pas inviter des amis? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des amis qui étaient en couple et qui viendraient pas passer la soirée les réconforter. D'autres qui avaient des enfants. Donc c'était surtout une question de finalement rencontrer quelqu'un qui est comme moi, qui a envie de passer une soirée cool
et qui veut un peu de tendresse.
Voilà, exactement. Et on va évacuer la question sexuelle puisqu'il n'y en aura pas.
Il faut trouver une bonne série, quoi.
Ouais, exactement.
Et bien, regardez des films, effectivement, ils se programmaient des soirées cinéma aussi.
Bah oui, on les comprend. Au fond, Cécilia, est-ce que l'être humain est fait pour vivre en couple? Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors moi, évidemment, je pense qu'il y a quelque chose de vrai. D'abord, beaucoup d'anthropologues américains, dont Margaret Mead, avaient dit que finalement, l'être humain peut bien essayer toutes les formes de communauté qu'il veut. Tout doucement, disait-elle, la famille refait surface. Ce qu'on voit, ce que moi je trouve extrêmement intéressant, pour finalement avoir un avis peut-être plus élargi, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans les communautés où il était interdit de faire couple, où l'amour libre était prôné. La première communauté qui, au début du 19e siècle, qui avait quand même 500 membres dans cette communauté, on s'est rendu compte que inexorablement, et malgré les sanctions encourues, parce qu'il y avait des vraies sanctions, il y avait des préférences et des couples clandestins, en fait, se formaient. Et puis, quand on observe les communautés hippies, on se rend compte qu'en fait, toutes les communautés hippies où l'amour libre était prôné n'ont pas survécu. En fait, petit à petit, quand elles s'installaient, ces communautés-là, et qu'elles commençaient à organiser une vie, encore une fois, inexorablement, elle revenait vers l'envie de faire couple. Oui.
Mais c'est peut-être parce qu'on leur a interdisé justement de faire couple. Est-ce que c'est pas la transgression
encore une fois. C'est possible, mais dans les couples libres, on est dans les années 70, sur les communautés hippies, on sort justement de milliers d'années, ou en tous les cas, un temps très long, où il n'y a qu'un seul couple et qu'un seul modèle. Et d'un coup, on leur offre quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir cette préférence, c'est-à-dire qu'à un moment donné parmi toutes les femmes de la communauté, un homme se sent plus proche
d'une d'entre elles,
en fait.
Juste rapidement, on ne sait pas tout à fait encore si on est plus heureux quand on est en couple ou pas, mais en tout cas, on vit plus longtemps quand est en couple. Ça, c'est prouvé.
Alors ça, c'est prouvé. Ça fait 150 ans qu'il y a des études qui le démontrent. Les dernières, qui je pense ont beaucoup de poids, c'est celle de l'école de médecine d'Harvard, qui dit que oui, il est démontré qu'un homme qui est en couple longtemps a une plus grande chance de survie par rapport à ses pairs non mariés. Et on sait aussi que ça protège des maladies cardiovasculaires et des dépressions. Alors pas parce qu'on est plus fort quand on est en couple. Moi, je pense, ma petite idée, c'est que quand on est en couple, et surtout c'est des études qui ont été faites chez les hommes, eh ben, y a une femme qui vous dit d'aller voir le médecin, qui vous dit de faire attention à vous, qui en fait veille et vous oblige en fait à faire attention à votre santé.
Alors Cécilia, comment on vous retrouve dans quelques minutes sur ce sujet de ce qui fait qu'on est en couple ou au contraire qu'on ne ressent pas la nécessité d'en former un. D'ailleurs, je le rappelle, n'hésitez pas à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur le hashtag Europe 1 ou au 3921, le répondeur d'Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On se pose ce matin cette question, Mélanie. Faut-il être en couple pour être heureux? Et on y répond avec notre invitée, Cécilia Como. Alors je rappelle, Cécilia, que vous êtes psychanalyste et sexologue. On va prendre un cas concret hein, dans les réunions de famille. Les célibataires sont souvent la cible de toutes les questions et on leur dit « mais t'inquiète pas, le bonheur va arriver ». Pourquoi les gens pensent que parce qu'on est seul, on est malheureux et comment il faut réagir quand on est comme eux?
Alors, je pense qu'il y a cette notion, effectivement, de nous sommes incomplets et quelque part, notre moitié nous attend. Et que donc, tant qu'on ne l'a pas trouvé, nous sommes malheureux. Alors ça, ça parcourt vraiment tous les siècles. Ça, c'est encore très présent aujourd'hui. C'est Platon dans Le Banquet qui dit « chacun cherche sa moitié ». Et on a cette idée que finalement, quand on est seul, on est incomplet. Et donc, si on est incomplet, on est malheureux. Alors qu'en fait, on peut se compléter au travers de plein de choses. L'enthousiasme ne vient pas que de l'amour. Hein. L'enthousiasme...
Une vie professionnelle très épanouie,
exactement.
Plein d'amis super,
absolument.
Ça peut suffire.
Donc, évidemment.
Et c'est parfois ça, sa moitié. C'est le travail, ce sont les amis. Ça peut être une moitié,
c'est les passions aussi. Moi, je pense qu'il y a... C'est pas parce qu'on vit seul... qu'on est seul. On peut vivre à deux et se sentir très seul. La solitude et l'isolement, c'est déjà deux choses différentes. On peut vivre seul et être très entouré. Donc, je ne pense pas du tout qu'on est forcément malheureux en étant célibataire. Mais le problème des célibataires, enfin, de cette notion, c'est que je pense qu'il y a trois types. Il y a le célibat choisi, il y a le célibat subi, et il y a le célibat subi qu'on dit choisi. Alors évidemment, celui qui fait le plus de mal, c'est le célibat subi, parce qu'en tant qu'être humain, on n'est pas fait pour la solitude. Quand on est seul, on se contracte sur nous-mêmes, et ça nous rend malheureux. Mais on peut effectivement, on n'est pas heureux seul, puisqu'on est heureux dans les interactions aux autres. Mais ça peut être des interactions qui sont autres qu'avec des gens dont on est amoureux.
Bien sûr. On a Thomas à Périgueux sur la page Facebook d'Europe 1 qui dit « On peut aussi être en couple, mais vivre séparément, vivre dans une chambre ou un appartement séparé. C'est juste milieu, dit-il, entre le couple et le célibat. Qu'est-ce qu'on pense alors de ces couples, effectivement, qui ne vivent pas sous le même toit? Ça n'empêche pas d'être un couple. C'est votre cas? Vous faites un signe, Clément?
Je l'ai fait pendant longtemps. On est sur le même palier, en fait. J'ai pris le reste du palier et on avait chacun notre appart pendant 2 ans.
Vous avez fini par habiter sous le même toit, quand même.
Non, mais ça relance complètement, justement, le couple. C'est hyper intéressant.
Ah non, mais moi, je vais vous dire, je ne suis pas une absolue défendresse du couple où on vit au même endroit. Moi, je milite pour que les gens aient une écriture autonome du couple et de l'amour, et que chacun s'autorise à inventer son propre scénario. C'est pour ça que moi, je n'écris rien pour les couples. Je les aide simplement à débusquer les obstacles qui les empêchent de vivre bien. Mais évidemment, ce qui est toujours le plus intéressant, c'est pas de coller à une norme, ou c'est pas non plus de crier haro sur cette norme. C'est ça la difficulté. La difficulté, c'est justement d'écrire son propre couple, de le faire comme on a envie, sans se soucier de « mais est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est normal ?» Si ça vous va bien, et ben c'est que c'est bien.
Alors il faut aussi qu'on parle des personnes en couple mais seules. On a commencé un peu à aborder ça, qui ne communiquent plus vraiment ensemble. On en connaît tous. Est-ce que vous en voyez beaucoup, vous, en consultation?
On les voit un peu. Souvent, on se fait un peu, en tant que thérapeute, l'impression d'être un peu l'antichambre de l'avocat. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'ils viennent pour acter le fait qu'en fait, plus rien, ils n'ont plus aucune interaction émotionnelle ou psychique ensemble.
Vous les appelez les ghost couples?
Oui, alors c'est les Américains qui les ont définis comme des ghost couples, c'est-à-dire des couples fantômes. Ils sont bien au même endroit géographiquement, mais ils ne sont pas du tout au même endroit psychiquement. Et donc, souvent, ce qui les réunit, c'est les mètres carrés et les enfants. Mais ils sont comme ça, très, très déconnectés l'un l'autre. Alors, ce qui n'a pas aidé, je trouve, et ce qui, à mon avis, a fait qu'on leur a même trouvé un nom maintenant, parce que leur nombre a dû grandir, c'est évidemment les tablettes, les téléphones et les ordinateurs. C'est-à-dire que chacun est enfermé dans un monde dans lequel l'autre n'est pas invité. Et ça, effectivement, quand on fait pas attention à ça, on se rend vite compte que chacun était dans un monde séparé. Et ça, c'est la difficulté. Alors, qu'est-ce qui les sort de là? Bon, très souvent, ce qui les sort de là, c'est une autre rencontre. C'est-à-dire qu'ils se rendent même plus compte qu'ils ont finalement le cœur, du coup, bat très, très lentement, presque en mort clinique. Et d'un seul coup, il y a, un regard, un sursaut. Et là, ils comprennent qu'en fait...
On peut vivre autrement.
Ouais, exactement.
Merci beaucoup, Cécilia Como, pour cet éclairage. On a vu donc que c'est pas si simple que ça. Avec la relation à deux, le couple, ben, c'est pas forcément le but à atteindre dans la vie pour être vraiment heureux. Je vais faire une petite transition, peut-être un peu hasardeuse, mais quand dans le couple, ça va pas terrible, ben, parfois on peut avoir mal au ventre, c'est des problèmes de digestion. Ouais. Vous confirmez, en plus, en tant que psychanalyste, ça tombe très bien.
On somatise.
Et ben voilà, on va voir ce qu'en pense le docteur Kaina Ossédic. Vous êtes notre invitée suivante. Vous êtes biologiste alimentaire et l'auteur du livre La magie de la digestion chez Interédition. Alors, dans votre livre, justement, vous dites que si on est souvent ballonné après les repas, qu'on a souvent mal au ventre, quand on est même en surpoids, finalement, ces problèmes viennent du fait qu'on connaît très mal notre système digestif et sa chimie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
C'est exactement ça, parce que longtemps, on a pensé que manger, ça pouvait guérir. On disait de manger lorsque nous étions malades, donc il fallait manger pour se soigner. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, notre alimentation a tellement changé sur le plan chimique, car on a transformé nos céréales, nos légumes, nos fruits, etc., qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a certaines personnes qui digèrent moins bien tous ces aliments transformés.
Alors, on ne va pas détailler tout le fonctionnement du tube digestif, mais vous dites qu'à chaque étape de la digestion, eh bien, c'est important. Et ça commence dès notre bouche. En fait, il faut bien mastiquer. On fait comment ?
C'est exactement ça. Il faut bien, bien mastiquer pour pouvoir enrober les aliments. Alors, souvent, les gens vont dire « Ah, mais moi, j'avale, je ne mastique pas, j'avale. » Malheureusement, l'effet mécanique et chimique dans la bouche est incontournable pour une bonne
mais
digestion.
Mais alors, c'est quoi une bonne mastication ?
Ah, une bonne mastication, souvent, on dit, c'est entre 15, voire 30 fois.
Clément, il est en train de partir. Vous mastiquez autant de fois que ça,
voilà, non,
non. Lui, il gobe.
Non, mais je ne le fais pas. Je sais que moi, j'ai un souci, c'est que je mange vite parce que, justement, je prends pas le temps et je pense que c'est le problème de beaucoup de personnes.
Ouais, et là, dans certains pays européens, maintenant, c'est dès le plus jeune âge, dans les cantines, on va venir, on va faire ça de manière ludique et on va dire aux enfants, allez, mastiquez du côté gauche 5 fois, mastiquez du côté droit 5 fois. C'est pour inciter les enfants, dès le plus jeune âge, à mastiquer pour pouvoir bien digérer.
Alors, vous dites que le fonctionnement de notre tube digestif est le même d'ailleurs que l'homme de Cro-Magnon, mais qu'il est mis à mal, vous l'avez dit tout à l'heure, par rapport à ce qu'on mange aujourd'hui. En fait, on digère bien, vous écrivez dans votre livre, ce qui vient de la nature, et donc notre tube digestif, il déteste les aliments aliens. C'est quoi ces aliments aliens ?
C'est ça, les aliments aliens, ce que j'appelle aussi les aliments hybrides, c'est tout ce qui est devenu blanc. Il faut quand même ne pas oublier que le blé, à la base, s'il en voyait sa couleur naturelle,
c'est pas blanc.
Le sucre, à la base, quand on le prend de la canne à sucre ou de la betterave sucrière, il n'est pas blanc non plus. Donc, il faut revenir à ces aliments nobles, à mon sens, qui sont vraiment ce brut. Le sucre complet est nettement plus digeste que le sucre blanc. La farine, comme on la connaît, tant pis, on n'aime pas sa couleur, mais c'est l'aliment que le tube digestif apprécie.
Et
le
il se passe quoi quand il y a trop de blanc dans mon tube digestif, trop de sucre c'est raffiné, ça. Trop de farine blanche?
Exactement.
Il va se passer quoi concrètement?
Alors, ce qui se passe concrètement, c'est qu'en réalité, dans notre tube digestif, maintenant on le dit de plus en plus, on a ce qu'on appelle ces petites bactéries qui peuplent tout notre intestin, notre côlon, etc.
Notre microbiote, hein,
exactement, donc, c'est ça, c'est notre microbiote. Alors, on parle souvent du microbiote intestinal. Il faut savoir qu'il y a aussi d'autres microbiotes, mais si l'on parle du microbiote intestinal, on s'aperçoit de plus en plus que la théorie qui disait « mange un fruit, tu vas avoir ces vitamines » ou « mange ce pain, ça va te donner des fibres et des minéraux, etc. » On s'aperçoit que cette absorption, elle n'est pas directe. On mange, c'est nos bactéries qui absorbent dans notre tube digestif et c'est ce qu'elles redonnent derrière, c'est un petit peu leur déchet qui va servir de nutriments à notre corps. Et lorsqu'on mange blanc, farine blanche, sucre blanc, tout ce qui est transformé, ces bactéries ne savent pas faire. Parce que sur le plan chimique, on a modifié cette céréale ou ce sucre, etc. Donc, à partir du moment où la chimie synthétique, industrielle rentre dans notre alimentation, fallait bien s'attendre que ces bactéries qui sont très primitives n'arrivent pas à faire le job.
Alors, autre question qui rejoint un peu celle-ci. Quand on mange, par exemple, des bons aliments, mais qui, eux, contiennent des pesticides, qu'est-ce qui se passe dans notre ventre ?
C'est ça, exactement. Longtemps, on a fait un petit peu... la guerre à ce qu'on appelle les aliments gluten. Le gluten est interdit. Quand je ne mange pas de gluten, je me sens bien, etc.
Voire je maigris. Hein, certains disent qu'ils ont beaucoup maigri en arrêtant le gluten. Ce que n'a pas fait Clément Lannou. Il n'a pas arrêté le gluten.
Non, mais je me pose la question quand j'entends les gens dire « moi je suis intolérant au gluten », si c'est vraiment justement quelque chose
une
de
intolérance,
physiologique ou si c'est psychologique. Et...
Ou souvent aussi, c'est parce que les aliments riches en gluten sont des aliments qui absorbent plus facilement et de manière plus importante certains pesticides. Donc, ils sont plus riches de pesticides que d'autres aliments gluten-free, par exemple.
Il se passe quoi dans le ventre quand on avale des pesticides ?
Donc, en réalité, quand on avale ça, les bactéries, c'est elles qui sont en première ligne. Elles absorbent ça et malheureusement, ces bactéries, elles vont essayer de transformer ça. Elles n'y arrivent pas. Notre tube digestif, il a une arme fatale qui est la fermentation. Oui. Donc, quand il n'arrive pas, on commence à fermenter. Le fameux ballonnement qui, parfois, est très douloureux. Suivent ça. Il y a les gaz aussi qui vont arriver derrière. Donc, en réalité, à partir du moment où les bactéries n'y arrivent plus, elles vont se mettre dans des conditions un peu drastiques pour essayer quand même de transformer ces aliments-là.
Alors, Kaïna Ossédic, vous restez avec nous. On va continuer sur les secrets de notre digestion. Comment pouvons-nous en reprendre le bon contrôle? Quelles sont les combinaisons alimentaires à privilégier pour retrouver l'équilibre et surtout son poids de forme? Je suis sûre que ça va intéresser beaucoup d'entre vous. Alors, restez sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est Bien fait pour vous, votre magazine qui vous parle de votre vie quotidienne, de comment la rendre encore meilleure, plus douce. Et donc, nous sommes toujours dans notre dossier santé bien-être du jour avec le docteur Kaïna Ossédic. Vous êtes biologiste alimentaire, l'auteur également du livre La magie de la digestion chez Interédition. Alors, ce que vous dites, c'est que le secret, la clé pour se sentir mieux et même perdre du poids, ce sont aussi les combinaisons alimentaires. En fait, il y a des aliments qu'il ne faut jamais manger ensemble et d'autres qui s'assemblent très bien. Expliquez-nous le principe des combinaisons.
C'est ça, exactement. C'est qu'on s'aperçoit de plus en plus que l'être humain a développé, si on peut dire ça comme ça, a développé un réflexe de survie. En tout cas, son tube digestif a développé un réflexe de survie par rapport à toutes ces modifications alimentaires. Et on s'aperçoit que chez certains patients au cabinet, il faut associer d'une certaine manière ces aliments dans son assiette pour pouvoir avoir une bonne digestion, donc sans désagréments, sans douleur, sans ballonnement, etc. Mmh. Et c'est vrai que très souvent, lorsque nous faisons ainsi, donc bien combiné, on perd même du poids.
Ouais. Alors, est-ce que je peux combiner pizza et kebab, voilà, par exemple? Oh, non, j'imagine que ce n'est pas génial, non?
Alors du coup, si on peut parler un petit peu pour résumer un peu les combinaisons alimentaires, c'est que dans une même assiette, on ne peut pas mélanger ce qu'on appelle les sucres lents, donc la pizza, par exemple.
Ce que vous appelez, vous, les amidons.
C'est ça, ce qu'on appelle les amidons, donc tout ce qui est sucre lent, donc les pâtes, les céréales de manière générale, ou les légumineuses, avec, à côté de cela, ou à la fin du repas, un fruit qui est un sucre rapide et qui est de l'acide. Les fruits étant connus pour être riches en acide ascorbique, la vitamine C, donc voilà, c'est les
donc fruits, on les vire des repas, c'est ça?
C'est pour ça qu'il y a une longue période, autrefois, où on disait aux patients, si vous ballonnez, si vous avez des gaz, alors mangez vos fruits en dehors de vos repas. Mais on n'expliquait pas ce process de combinaison.
Le pourquoi du comment, ouais.
Mais ouais, ça veut dire que même si on mange des produits naturels, mais qu'on les associe mal, on ne profitera pas de leurs bienfaits.
C'est
et potentiellement, on peut grossir aussi.
C'est ça, c'est exactement ça. Je trouve qu'on a fait énormément de progrès. Les gens sont de plus en plus sensibles au bien manger des bons aliments. On n'en est plus à certaines années où acheter du pain noir ou marron foncé était perçu comme un, voilà, un aliment dégoût. Là, les gens sont de plus en plus sont de plus en plus soucieux de ce qu'il y a dans leurs assiettes. On voit même pour leurs enfants, ils vont utiliser des aliments pas transformés, etc. Ça, c'est déjà une excellente étape.
Mais la combinaison, on a encore du progrès.
Voilà, c'est ça. Mais la combinaison après un certain âge. Pas pour les enfants, pas pour les ados.
Jusqu'à quel âge on peut manger n'importe comment?
J'ai envie de dire, c'est quand votre corps va vous le dire.
Quand on va commencer à prendre du poids, quand on va être ballonné,
prendre surtout tout autour du tube digestif, donc au niveau de la ceinture abdominale.
Bon, moi je crois que c'est raté, j'y suis, ça y est. La pizza à l'ananas, par exemple, du coup c'est acide et du pain, c'est pas bon. Hein,
alors la pizza à l'ananas...
Déjà c'est pas bon tout court, hein, on est d'accord.
Non, si l'ananas est cuit, ce n'est plus un acide. Parce qu'à partir du moment où vous faites cuire un fruit, il perd toutes ses vitamines, donc il perd toute son acidité.
Mais de toute façon, c'est un crime, la pizza à l'ananas. Donc...
Par contre, il faut se faire plaisir quand même.
Par contre, je crois que dans la phase d'attaque de votre rééquilibrage alimentaire, vous préconisez un sevrage total du sucre pour réveiller notre digestion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Exactement, c'est ça. Souvent, il y a des gens qui vont venir et qui vont nous dire « Moi, j'ai jeûné 5 jours, j'ai jeûné 7 jours, j'ai bu que de l'eau et qu'est-ce que je me suis sentie bien ?» En réalité, on pourrait avoir le même ressenti, c'est-à-dire être dans avoir une énergie assez importante, se sentir léger, se sentir bien en mangeant, mais en excluant tout sucre.
Alors, c'est quoi tout sucre ? C'est les sucres lents ?
Alors, attention, ça, il ne faut pas le faire au-delà de 7 jours, voire 10 jours. Et encore, il faudrait être bien suivi par une nutritionniste ou, comme nous, des biochimistes alimentaires au sein du cabinet. Mais attention, c'est quelque chose qui est réglementé. On ne le fait pas tout seul dans son coin. Mais effectivement, c'est ça. C'est que pendant 7 à 10 jours, on exclut tout ce qui est sucre lent, tout ce qui est pâte, riz, féculents, légumineuses.
Les carottes
tout ce
aussi.
Qui est, qui est sucre. Et on exclut les fruits. Mais on
et les gâteaux.
Exactement.
Oh ben les gâteaux, c'est exclu tout court, hein, pour longtemps, je crois.
Et à partir du moment où on exclut tout sucre, on voit que le corps va prendre l'option B pour fonctionner, c'est-à-dire essayer de vous faire fonctionner tous les jours, mais sans apport de
sucre.
C'est
une sorte de régime cétogène, un petit peu ou c'est
Non,
pas
parce
ça.
Qu'on ne va pas vous faire manger que de la masse grasse ou des aliments riches en gras. Non, vous allez manger des légumes, vous allez manger des protéines, vous allez manger des produits laitiers aussi. Nous, on favorise beaucoup tout ce qui est yaourt, fromage de brebis, de chèvre.
Pourquoi par rapport à ceux de vache ?
Alors, les yaourts de brebis et de chèvre contiennent moins de toxines, ce qu'on appelle les facteurs de croissance. Alors maintenant, il y a quand même quelques produits laitiers à base de vache qui commencent à revenir à des productions moins industrielles, donc moins toxiques. Mais c'est vrai que brebis et chèvre sont beaucoup plus digestes. Et lorsque le patient va faire ça, sur 7 à 10 jours, le matin, il peut faire des yaourts, il peut faire des œufs s'il n'a pas de problème de cholestérol ou autre. Il peut faire aussi des noix, des amandes. La journée, c'est légumes, protéines. Il fait ça sur 7 à 10 jours. Il s'aperçoit que son corps fonctionne très 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 bien, voire beaucoup plus d'énergie et plus de peps que lorsqu'on mange du sucre.
Alors je voudrais bien qu'on revienne sur cette histoire d'acide, parce que moi je me demande comment j'assaisonne mes salades du coup. Comment on fait pour l'assaisonnement ?
Alors lorsqu'on a une salade, alors je donne un exemple, une salade tomate, feta, olive, laitue, concombre, là on est sur ce qu'on appelle des légumes verts, des neutres, là on peut assaisonner sa salade comme on le
souhaite.
Avec
du vinaigre,
voilà,
par exemple.
Du vinaigre, du citron, il n'y a pas de souci. Lorsque nous souhaitons faire des salades carottes, betteraves, là on s'attaque à des légumineuses, donc à des amidons. Et là, pour le coup, quand c'est carottes, betteraves, soit on assaisonne uniquement avec des huiles, donc suivant...
Mais pas de citron dessus, par exemple.
Voilà, pas de citron, pas de vinaigre. Ou souvent aussi, on utilise des petits cubes. Vous savez, on en voit de plus en plus dans rayons, des petits cubes bio, sans exhausteur, rien du tout. Ce sont des herbes aromatiques déshydratées qu'on peut rediluer dans un petit peu d'eau avec un petit
vous
peu de yaourt.
Vous n'aimez pas ça, Julia ? Je repense à toutes les carottes râpées avec de la vinaigrette que j'ai mangée.
Ouais, souvent, les femmes vont arriver au cabinet en disant « Moi, j'ai fait une semaine de carottes râpées, citron, vinaigre. »
Et c'est tout râpé.
Et c'est tout râpé, j'ai pas perdu.
Pour la digestion,
en
c'est
fait,
pas terrible.
C'est pas terrible ni pour la digestion, ni pour la silhouette. Oui. Parce qu'en réalité, à partir du moment où on a inflammé son tube, où on l'a mis dans une condition très compliquée pour faire passer ces aliments-là, en fait, après, il est fatigué pour la journée.
Donc la carotte, c'est de l'huile d'olive et puis des herbes. Toutes les herbes que vous voulez, ça n'y a pas possible. Parce qu'il n'y a pas de problème, parce que les herbes, d'ailleurs, ça fait partie des aliments neutres, non ?
Exactement.
La coriandre, la menthe,
et qu'on a oublié
le basilic,
longtemps, voilà, et qu'il faudrait absolument, absolument remettre dans son assiette. Tout ce qui est persil, basilic, ciboulette, laurier, thym, c'est très 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 riche en plus. D'ailleurs, il y a beaucoup
d'antioxydants, déjà.
Exactement,
aussi.
Antioxydants, beaucoup de minéraux dans ces herbes-là, et on peut les utiliser même comme des coupe-faim naturelles.
D'accord. Ça m'arrive de manger de la ciboulette toute seule, moi. Oui, j'aime bien. Vous aimez pas ça ?
Non, c'est génial. Ça, c'est excellent. Les herbes, il faut que ça revienne dans nos assiettes.
C'est mes grignotages de lapin. C'est quoi donc les aliments neutres ? Ceux-là, on peut les associer avec n'importe quoi.
Voilà, c'est tous les légumes verts, tout ce qui compose la ratatouille. Donc courgettes, tomates, oignons, ail. Haricots verts, champignons.
Quel bonheur, vous pouvez manger autant que vous voulez.
C'est
tout
génial,
ça.
Avec un peu de coriandre et puis c'est la
parfait.
Fête est plus folle.
Exactement.
Mais alors moi j'ai quand même une question qui est assez concernante, le vin. Voilà, le vin rouge. Le vin
c'est toujours
rouge.
Vous qui posez les questions vin, j'ai remarqué.
Ouais. En plus j'ai arrêté de fumer, donc là j'y pense beaucoup. Le vin rouge, le blanc ou le rosé ?
Alors, le vin rouge...
Ça si vous on... a donné la carte. Hein, voilà. Avec modération.
Je vous ai pas mis les cocktails, hein, parce que voilà. J'imagine que c'est pas génial.
Alors, si on parle du vin rouge, le vin rouge, étant donné que c'est un alcool qui a quand même eu une longue fermentation, où la totalité du sucre s'est transformée en alcool, donc c'est vrai que le vin rouge, c'est celui qui se digère le mieux avec tous les aliments. Par contre, pour les amoureux de rosé, de vin blanc, de champagne, mais oui. attention, toujours avec modération, pour les amoureux de tout ce qui est alcool avec des fermentations très courtes, il faut savoir que...
Avec des féculents dans le même repas.
C'est ça, parce que ça reste des vins quand même très acide.
Huître et champagne, ça va.
Exactement. Mais pas ça. Le petit bout de pain à côté.
Ah, brocoli, oui. Champagne aussi, ça marche.
Voilà. Mais avec modération sur les brocolis, évidemment. Non, je rigole. Sur le champagne également. Bon. Alors, vous parliez de la pizza.
Oui, c'est moi, ça.
Oui, si c'est vous, Mélanie. Elle parlait
si
de la
on
pizza.
Fait une pizza à quatre fromages, une pizza aux légumes, et qu'on finit par un yaourt de brebis,
pas c'est de problème.
Voilà, pas de problème.
Mais par contre, vous dites pas d'huile piquante.
Pour... C'est ça. Parce que l'huile piquante, il y a un conservateur à l'intérieur pour conserver. Ah, et oui. Donc, l'huile piquante contient des conservateurs.
Donc, souvent, c'est acide.
Voilà, c'est ça. Souvent, ce sont des acides qu'on utilise pour la conservation. Donc, si on la fait cuire au préalable, c'est pas top, mais au moins, elle devient neutre. Mais sinon, oui, pas d'huile piquante, juste de l'huile d'olive, ça ira.
On va rester sur ça, Kaïna Oussédic, parce que maintenant que je sais qu'on peut manger des pizzas à quatre fromages...
C'est bon, mais sans huile piquante, c'est pas grave.
Pas d'huile piquante.
Mais plein de fromages.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Bienfait
pour
vous.
Avec grand plaisir.
Tout de suite, il est l'heure, Mélanie, de notre séquence tendance. En plus, il est presque midi et je crois qu'elle sera particulièrement savoureuse.
Hein, et aujourd'hui. Oui, Julia, nos trois chroniqueurs de choc vont débarquer dans ce studio et puisque c'est bientôt l'heure de passer à table, on commencera avec de la gourmandise. Je crois que Philippine Darblay vient avec le must du must de l'huile d'olive. Et pas mal de conseils pour la sublimer. Cécile Coumou, elle, a testé pour nous une chose étonnante, un simulateur de vieillissement. Et puis, on finira ce tour de table en beauté avec la chronique mode de Sophie Braffman qui va nous dire une fois pour toutes si cette femme si célèbre, enviée de tous, la parisienne, cette femme licorne existe-t-elle vraiment ? Il est midi sur Europe 1. Le programme d'Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Bonjour Romain.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Voici donc le programme d'Europe Midi, un nouveau dispositif pour remplacer le rappel à la loi, souvent utilisé pour les petits délinquants. Un rappel à la loi inutile selon certains. Le ministère de la Justice crée l'avertissement pénal probatoire. On verra si ça va vraiment changer quelque chose. Un cortège de mariage qui dégénère. Ça s'est passé à Méry-sur-Oise ce week-end. Des routes ont été bloquées par des individus au volant de puissantes voitures. Des violences ont été commises contre les gendarmes. On va vous raconter ce qui s'est passé. La grève des médecins de SOS Médecins qui veulent être mieux payés quand ils se rendent au domicile de leurs patients. On verra les conséquences dans le Var. Éric Zemmour est-il en train de torpiller les Républicains ? Je poserai la question à Jacques Seret du service politique d'Europe 1 au lendemain de la journée du conservatisme à laquelle a participé Éric Zemmour. Et puis le PSG affronte Manchester City demain en Ligue des Champions. Tiens, est-ce que Messi sera de la partie ? On verra ça avec Cyril de la Morinerie. Voici donc le programme d'Europe Midi. À tout à l'heure dans une demi-heure.
Europe 1. Merci beaucoup Romain, à tout à l'heure.
Europe 1. 11h30. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bienfait pour vous, votre magazine dédié au bien-être et au mieux vivre. C'est jusqu'à 12h30 et dans la demi-heure qui va suivre, ça va être très sympa. On va ouvrir notre tour de table tendance. Ce moment dans l'émission dans lequel on vous fait découvrir nos meilleurs bons plans, ces tendances d'ici ou d'ailleurs que nos chroniqueurs vont dénicher ou même goûter pour nous. Et oui Mélanie, alors je vous détaille un peu le menu. Hein. Dès midi, et c'est ce qu'on vous proposera désormais, on va plonger dans nos assiettes un peu de gastronomie avec Philippine Darblay, focus sur les nouveautés en matière d'huile d'olive, c'est bien ça ?
C'est tout à fait ça. On va parler d'huile d'olive et de recommandations de chef.
On salive déjà. Et puis dans la bande, il y a aussi Cécile Coumeau, notre spécialiste des tendances pour les jeunes de 50 ans et plus. Mais aujourd'hui, Cécile, vous avez mouillé la chemise et vous avez pris volontairement quelques rides et quelques rhumatismes, c'est bien ça ?
Exactement. J'ai testé un simulateur de vieillissement, ben, pour toucher du doigt ce que c'est la perte d'autonomie et rapprocher les générations, en fait.
Ah, intéressant. Et puis enfin, ce sera vous, Sophie Braffman, qui nous ferez découvrir une tendance. C'est toujours du côté de la mode avec vous que ça se passe. Et en plus, aujourd'hui, c'est le lancement de la Fashion Week à Paris. Alors, votre thème du jour, votre question même du jour, est plus importante que jamais.
Non, mais sommes-nous vraiment en mode Fashion Week cette semaine ? Sommes-nous de vraies Parisiennes ? Ou juste, la Parisienne est-elle une licorne ? Elle n'existe peut-être pas ? On va se poser la question.
Ah, super. Merci beaucoup, Sophie. On vous retrouve dans quelques minutes. Et tout de suite, je décrète ouverte notre table des tendances.
Europe 1.
Allez, c'est parti pour la séquence tendance de cette émission. Notre bande de chroniqueurs, de chroniqueuses, que dis-je, est bien installée avec nous dans ce studio. Et il est midi, alors place à la gastronomie, parce que soyons honnêtes, l'émission s'appelle « Bien fait pour vous ». Qu'est-ce qui nous fait vraiment du bien, Julia, dans la vie?
La barbe, les massages, bien digérer, tout ça.
Bien manger, hein, moi j'aime bien manger, déguster, et pas d'ailleurs que des choses pour garder la ligne. Quoique le produit savoureux dont on va parler avec vous, Philippine Darblay, c'est très bon aussi pour la santé. Philippine, on y va, faites-nous saliver.
Bah oui, très jolie introduction, merci beaucoup. C'est vrai que dans cette émission, vous parlez de bien-être, on parle de conso aussi, pour savoir un petit peu quels sont les produits à avoir chez soi. Et si dans la cuisine, il y a bien un ingrédient important, surtout pour manger plus sainement, c'est...
l'huile d'olive.
J'aimerais bien vous dire le beurre, parce que je suis un peu une...
Mais non, vous êtes normande, bretonne.
Non, c'est pas... un petit peu, exactement.
D'accord.
Mais bon, l'huile d'olive est un petit peu plus saine, ça c'est sûr. Bon, et évidemment, hein, quand on veut manger plus équilibré, il faut plus de légumes, entre autres, et donc un meilleur assaisonnement, ce qui est quand même le remède anti-boring pour transformer une salade en bombe atomique, il faut le dire. Alors l'huile d'olive, évidemment, on le sait, elle est excellente pour la santé, elle est riche en oméga 9, elle diminue le risque de maladies cardiovasculaires, elle baisse le cholestérol. Elle est riche aussi en antioxydants, on parle de
c'est
ralentissement.
C'est un produit magique en réalité, ouais, hein, c'est presque un médicament on dirait.
Ça l'est, oh, c'est vrai, ça commence par la nourriture, hein, les médicaments. Et qui mieux que les chefs pour vous aider à choisir votre huile? Alors j'ai d'abord interrogé un chef qui s'appelle Simone Tondo, qui est sarde, qui est aux manettes du restaurant Racine à Paris, qu'il décrit comme une bistro-stéria, donc c'est un mélange entre...
Bistro-stéria,
voilà,
d'accord.
C'est ça, mélange entre bistro et osteria. Et voilà ce qu'il me répond quand je lui demande ce que c'est pour lui l'huile d'olive et surtout comment il l'a choisie.
Moi, l'huile d'olive, c'est un produit qui fait partie de notre archive des goûts. J'ai choisi mon huile par rapport à sa provenance, par rapport au type d'utilisation. Donc, un huile plus léger et plus fruité sûrement du Nord, Ligurie, et un huile un peu plus corsé, plus fort et plus présent, sûrement du Sud, donc Sicile, loin de Sardaigne.
Et quand je lui demande les marques qu'il utilise...
L'huile d'olive, c'est quelque chose que, dans ma culture, tu achètes à des gens que t'aimes, pour sauvegarder certains terrains et entretenir de belles relations, d'amitié. Donc on peut aller en Grèce avec son Ralis, donc profil grec, que c'est un super copain. On peut aller en Sicile, il y a Cédric Casanova qui fait une grande huile d'olive. Vraiment, il y en a tout. On n'a pas vraiment un huile phare, on en a plusieurs et ils sont tous très importants dans notre cuisine.
Bon, si j'ai bien compris, pour choisir l'huile d'olive, en fait, il faut opter pour l'amour, hein, c'est ça, Philippine?
Exactement.
Il en utilise donc des différentes d'huile d'olive?
Oui, c'est ça. Il explique tout à fait qu'il utilise entre autres celle de Cédric Casanova, hein, il le cite, ou celle d'Alexandre Alice, par exemple avec une ricotta maison, de l'origan et du poivre et du sel. Et en conclusion, il rappelle...
Des fois, l'huile, il peut être un ingrédient qui tient un plat entier. Voilà, c'est un peu ma lettre d'amour à l'huile d'olive.
J'adore. Bon, alors direction le sud de la France maintenant, avec Pierre-Antoine Denis, fondateur des restaurants à succès Otto et La Cantinetta à Marseille, qui est un fou, là encore, de l'Italie. On l'est tous, mais lui aussi. Et d'ailleurs, il va évidemment souvent pour enrichir toutes ses inspirations. Lui utilise une huile de Sicile, cette fois, de la variété Tonda Iblea. Alors Tonda, c'est une abréviation pour ronde, rotonda. Voilà, et Iblea, en fait, ça fait simplement référence aux montagnes qui poussent où pousse la variété. Certains disent qu'elle a le goût de l'ancien sol sicilien.
Mais j'imagine qu'il y a beaucoup d'endroits qui en produisent, non?
Oui, effectivement. Alors Pierre-Antoine, lui, utilise plus particulièrement celle de la ferme Cinquecoli. Ah voilà, ça y est, on y est presque.
Pourquoi celle-ci en particulier?
Bah, pour ses notes d'herbes fraîches.
Vous en avez pas amené, j'aurais bien
goûté. Mais si, attendez, je vous les montre juste après.
Elle a donc des notes d'herbes fraîches, vous disiez.
Exactement, et parce qu'elle s'accorde bien avec beaucoup de plats, notamment, alors tout l'été, il a cuisiné un carpaccio de courgettes paysannes coupé très finement en rondelles, bien salé. Moi, personnellement, ça me fait saliver à cette heure-ci.
Carpaccio de courgettes, c'est délicieux, moi j'adore.
C'est toujours la même chose.
Avec quelques herbes, un peu dessus, une bonne huile, effectivement.
Exactement, ça suffit. Bon, et enfin, le chef Zach Gana, de la nouvelle adresse à Paris qui s'appelle Lolo Cave à manger, utilise une toute nouvelle marque tunisienne qui s'appelle Kaya, alors ça s'écrit K-A-I-A, qui est faite à base de la variété Chemlali. Et il en fait entre autres une ganache chocolat, huile d'olive, fleur de sel.
Ouais.
Alors Kaya a été fondée par Sarah Ben Romdan, qui a 27 ans, qui est une ancienne journaliste, et elle produit cette huile depuis une propriété familiale qui a des oliviers évidemment centenaires, et ce depuis 5 générations. Et du coup, elle nous explique un peu le patrimoine historique de l'huile tunisienne.
Ce qu'il faut savoir, c'est que l'olivier est intimement lié à la culture tunisienne, puisque les premiers arbres sont arrivés en Tunisie avec les Phéniciens, et que depuis, la culture n'a cessé de se répandre, notamment à l'époque romaine. Kaya est donc une huile d'olive fièrement enracinée dans le riche patrimoine tunisien et qui est produite avec conscience dans le respect de nos traditions ancestrales, de la terre et des hommes.
Ah, c'est très joliment dit. Effectivement, ce que nous dit Sarah, en fond, si je puis dire, c'est que la Tunisie a en fait souffert d'une image peu qualitative à force d'avoir produit en gros pendant de très nombreuses années. Et du coup, ça gâche un petit peu cet héritage et cette historique qui est énorme et existant. Donc la marque a pour elle mission de redorer le blason du pays.
Mais dites-moi, Philippine, j'ai l'impression que même les chefs se mettent à en faire, non ?
Exactement. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Mauro Colagrico.
Oh, on l'adore, mais ouais, oui, évidemment. Oui. Ça sent déjà l'huile d'olive dans ce studio.
Par définition, il est très pro en la matière.
Un menton,
moitié argentin,
bien sûr.
Au Mirazur,
exactement. Mirazur a été décerné meilleur restaurant au monde. Il y a aussi le chef que vous devez connaître aussi, Juan Arbeales, qui est un chef colombien qui se trouve à Paris, qui a plusieurs restaurants, qui s'est associé au frère Chandios pour créer une marque qui s'appelle Calios. Mmh. Voilà, en conclusion, quelques petits conseils. Toujours privilégier des huiles pressées à froid, vierge extra, estampillées AOP ou AOC, d'ailleurs les deux, et plutôt des bouteilles en verre ou des bidons de fer, hein, c'est mieux pour la conservation. Maintenant, à table et à la prochaine.
Mais ils sont où les huiles d'olive ?
Eh ben voilà, ne bougez pas.
On va voir ça. Parce que moi, en tout cas, cette chronique, elle me conforte dans mon mantra quotidien. L'huile d'olive, c'est la vie. Vous êtes d'accord, Sophie Brafman, même si vous faites la mode.
Bah alors,
parce que
cette semaine, je vais m'abstenir. Je ne prendrai pas d'huile d'olive,
pourquoi ?
Mais en général,
parce
je suis d'accord.
Parce que c'est la Fashion Week, on ne mange pas ?
Non, on ne mange pas du tout. D'ailleurs, je me sens un peu mal. N'hésitez pas, je vais défaillir.
Et vous, Cécile ?
Moi, je suis d'accord parce qu'on voyage. Rien qu'en consommant de l'huile d'olive, on va en Sicile, en Sardaigne.
Elles sont belles.
Moi, sur un petit bout de pain, un petit
cliché
avec un peu de sel.
Exactement.
Bon, ça suffit. Ça suffit. Restez ici toute la bande autour de la table. On revient dans un instant parce que maintenant qu'on est bien rassasié, enfin presque, par les conseils cuisine des Philippines, on va se glisser dans un simulateur de vieillissement. Alors vous allez voir, c'est très étonnant comme expérience, comme vous allez l'entendre. Et puis avec le coup d'envoi de la Fashion Week, on va s'intéresser à la femme, enfin la
parisienne. Elle mange plus, mais elle a des trucs à nous raconter.
Exactement. Mais surtout, est-ce que la parisienne existe ? Est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? Femme, licorne ou vraie nana ? On va tout vous expliquer.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et nous sommes toujours en studio dans cette dernière demi-heure consacrée à toutes les tendances du moment, celles qui nous font du bien ou qu'on meurt d'envie de découvrir. Passons maintenant aux bonnes idées pour nos auditeurs en pleine maturité, les quinquas et plus. Et aujourd'hui, Cécile Coumeau, vous allez nous parler d'un simulateur de vieillissement que vous avez testé rien que pour vous. Ça se voit pas, hein ?
Rien que pour nous !
Bah en fait, le but, c'était de me mettre dans la peau d'une personne âgée qui commence en fait à perdre son autonomie. Parce que se mettre à la place d'eux, il n'y a rien de mieux pour développer l'empathie en fait. Et comme autour de 50 ans, beaucoup d'entre nous, on a des parents dans le quatrième âge, je me suis dit que ça serait peut-être utile. Quoi.
Bon ok Cécile, mais concrètement, vous avez fait comment pour faire un voyage dans le futur et prendre 30 ans d'un coup ? Dites-nous surtout qu'on ne le fasse pas.
si, vous verrez, c'est utile, il faut le faire. Mais j'ai fait appel à Jean-Paul Lechien qui a créé donc un simulateur de vieillissement. Il se compose en gros de 3 éléments. Différentes lunettes qui vous donnent la vision de quelqu'un qui souffre de cataracte, de glaucome ou de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA, d'un casque qui simule la presbyacousie, c'est-à-dire donc la perte d'audition liée à l'âge, et d'un exosquelette qui limite votre motricité.
Mais c'est quoi un exosquelette ?
Alors, un exosquelette, en fait, c'est composé de sortes de prothèses qu'on va mettre sur les mains, sur les bras, les jambes, et qui se fixent avec de simples scratchs. Mm-hmm. Ça ressemble en fait à ce que vous mettez parfois quand vous êtes fait une entorse. Sauf que le but là, c'est de limiter les flexions et extensions des articulations, comme si vous souffriez en fait de rhumatisme.
Donc vous ressentez avec cet exosquelette et puis tout l'attirail et là les douleurs rhumatismales.
Non, alors
quel bonheur.
Non, non, quand même pas. Donc justement, donc c'est pas tout à fait quand même la vérité, mais on a l'impression en fait que tout est ralenti. J'ai essayé de mettre mes lunettes, ça m'a pris 3 minutes, mais je n'étais pas au bout de mes peines. J'ai fait le test des escaliers.
Alors, on va essayer tout d'abord de monter.
Oui, c'est vrai que c'est moins, ça fait moins peur, déjà.
Alors, il faut tenir la rampe.
Alors, ah ben, alors j'enlève la canne, alors, parce que je ne peux pas tout faire, là.
Voilà. Donc, une marche à la fois.
Oui, alors, je me rends compte que je suis très au bord de la marche. Ouais. C'est rigolo, parce que je vois ma mère, elle fait ça, d'ailleurs. Et elle met que le bout du pied sur la marche. Et là, je viens de me rendre compte que je fais la même chose. Et à chaque fois, je dis, mais maman, mets ton pied au fond.
Elle peut pas.
Mais ouais, et c'est pour ça qu'elle est déjà tombée dans les escaliers, hein, je vous le dis.
Oh, on le sent, hein, wow. Franchement, c'est immersif, c'est incroyable.
Et donc, vous voyez que le but recherché, en fait, qui est de mieux comprendre ses proches, hein, ses parents, enfin voilà, eh bien, ça marche. Et l'expérience, croyez-moi, était loin d'être finie.
Ça, c'est quoi ? C'est pour mettre autour
ça,
du cou ?
Ça, c'est pour simuler les rhumatismes du cou.
Ah ouais, d'accord. Parce qu'on a aussi que des rhumatismes, on en a partout en fait.
Ouais.
Essayez de faire un créneau.
Créneau.
Alors attendez.
Parce qu'il y a le siège, il y a le siège qui vous tient là.
Ah ouais, alors attendez. Ben là, je peux regarder juste à droite là, mais je peux pas regarder derrière, c'est impossible.
Tout à fait.
C'est impossible. Donc il faut que je me gare en épi ou alors je conduis plus quoi. En gros, c'est ça.
C'est ça, hein, je pense.
C'est à un moment donné, ça se demandait effectivement. On avait l'impression d'entendre les vertèbres craquer.
Non, mais c'est sûr qu'avec ça, on comprend bien que progressivement, il y a de nombreux actes de la vie quotidienne qui sont carrément limités.
C'est oui, c'est ça, exactement. Et je vous fais grâce du moment où j'ai essayé d'aller aux toilettes avec le simulateur de vieillissement. Heureusement que j'avais des abdos pour me relever, quand même.
Et cette perte de mobilité, Cécile, elle s'accompagne d'une perte de confiance, j'imagine. Quand on porte tout ça, là, ça a dû vous donner un bon exemple.
Oui, notamment parce que ce qui rajoute, c'est que les sens sont affectés, la vue, l'audition, comme je vous le disais. Et du coup, tout ça, ça finit par créer finalement des tensions entre aidant et aidé. Et je l'ai encore très bien compris quand j'ai mis les lunettes simulant la cataracte et que je suis sortie sur mon balcon.
Ah oui. Encore pire. Effectivement, la vision en plein soleil, c'est comment dire ? Oh là ! Ouais, d'accord. C'est... Ça fait des...
Ah, c'est... On est au-dessus du Mont Blanc, là.
Ouais, c'est ça, on est au-dessus du Mont Blanc. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas au-dessus du Mont Blanc, quoi. C'est quand même beaucoup moins sympa.
D'où le fait que quand un grand âge, on a ce temps-là, on ne le sort pas. Parce que là, il va vous trouver une rue. Oh non, j'ai pas envie, j'ai mal digéré. Mais il fait beau !
Et oui, on va s'énerver parce qu'on...
Pourquoi tu veux pas sortir ? Il fait beau !
C'est incroyable.
Ouais.
On pense tous à nos grands-parents.
Oui, c'est ça, exactement. Mais en fait, pour moi, en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, l'expérience la plus étonnante, c'était liée à la perte d'audition avec ce casque qui finalement vous donne l'impression d'être au fond d'une piscine.
Alors, juste un truc là. Est-ce qu'on peut enlever les lunettes cataractes? Là, ça commence à me faire mal au crâne. Oh la vache.
Non, parce que...
Attendez, vous venez de m'enlever le casque. Là, c'est un bonheur de récupérer. C'est une expérimentation. C'est de retrouver aussi... On sent vraiment la différence. Enfin, je suis vraiment beaucoup plus dans l'instant présent, en fait, en retirant ce casque qui assourdit tout.
Vous voyez que le but de départ, donc c'est vraiment hyper instructif. Alors évidemment, pour bien faire, il aurait fallu que je le teste toute la journée pour pouvoir se rendre compte de tous les actes de la vie quotidienne. Mais finalement, se mettre à la place d'eux, c'est vraiment la meilleure des solutions, enfin une des très bonnes solutions pour comprendre son aidant et arrêter de s'énerver en fait.
Philippine, vous avez testé l'huile d'olive, c'était plus sympa que tester l'huile d'olive.
Mais déjà, merci pour ce sujet parce que c'est vital pour tout le monde de comprendre ça. Après, ça me rappelle un autre, on a vu beaucoup de vidéos qui sont peut-être moins nostalgiques, mais pas mal de simulations de crampes, de femmes enceintes,
de contractions,
merci. Vous voyez que je ne suis pas encore passée
par là.
Mais il y a eu pas mal de simulations comme ça pour essayer de comprendre la personne et c'est assez fascinant.
Et ils l'ont fait sur des hommes, ils ont simulé des contractions.
Exactement, mais le Jean-Paul Le Chien qui fait ce simulateur, il a fait un simulateur de grossesse pour que les hommes puissent se mettre à la place.
Et pour les nausées, ça serait pas mal aussi, simulateur de nausées pour les hommes.
Sophie Braffman, on peut aller à la Fashion Week de Paris avec tout cet attirail
mais
là.
Bien sûr,
je suis qu'il n'y en a aucune qui l'a osé.
Et vous allez être super bien reçue. C'est ça qui est agréable.
Les grosses actus justement, c'est la Fashion Week à Paris.
Et oui, vous allez nous parler d'une femme ce midi et de quelle femme, la parisienne, elle fait fantasmer le monde entier. Mais la question, c'est existe-t-elle vraiment?
Peut-être est-ce bien une licorne. Enfin, on va faire un petit récap déjà sur cette Fashion Week qui arrive aujourd'hui à Paris. Alors évidemment, après New York, après Londres qui vient de finir, on espère que la nôtre sera aussi haute en couleur. Alors à Londres, il manquait quand même deux mastodontes du luxe, Burberry et Victoria Beckham. Alors Victoria était sans doute en train de réfléchir à un nouveau projet d'aménagement de son territoire. On lui a refusé la construction d'un lac artificiel dans sa grande maison du domaine de Abbotswood, qui est la maison la plus chère du Royaume-Uni, au motif que ce lac artificiel n'était pas très écolo. C'est dommage, on peut plus faire du jet ski le week-end sur son lac artificiel. Donc elle était pas très contente, elle a boudé cette Fashion Week. Du coup, il y avait de la place pour la jeunesse et l'avant-garde, avec notamment le trublion Richard Quin. Est-ce que vous en avez entendu parler?
Non.
Alors, il a fait défiler Lila Moss, c'est l'instant fille d'eux, donc la fille de Kate, évidemment. L'année dernière, avec des chats et des chiens en latex, mais ça ne s'arrête pas là. On a continué à faire preuve d'imagination pour la collection printemps-été, du color block, du rouge bien visible, un monsieur avec des cuissards en vinyle jaune, un gigantesque sac en forme d'anneau de piercing et des combinaisons, j'ai pensé à vous les filles, cagoules en fleurs, où il
facile quand on se fait fouetter chez Richard, c'est avec des tiges d'hortensia. Donc c'est l'esprit SM à l'anglaise, un peu drôle et décalé. Voilà, c'est un peu une façon de raisonner la mode en Angleterre.
Non mais d'accord, mais Londres, c'est pas Paris. Vous pensez que ça sera aussi créatif et original ici ?
Alors, je l'espère, Julia, je l'espère de tout cœur. Ce soir, nous avons quand même le défilé de Marine Serre, qui est la reine de l'upcycling et de la création intelligente. Alors, son défilé s'intitule Fichu pour Fichu. Donc, bon, côté espoir, faudra repasser. Par contre, on espère donc que Paris sera aussi créatif et les Parisiennes au rendez-vous. Parce que la Parisienne, elle est un peu plus timorée. Elle crie moins, elle boit moins, elle ose moins. Bref, a priori, elle serait même peut-être un peu chiante. Pourtant, on la célèbre partout. À la Samaritaine, ça n'a pu vous échapper, qui vient de rouvrir ses portes. Et ce week-end se tenait au Crillon un événement intitulé La Parisienne au Crillon. Ça, c'est vraiment Paris. Une réunion de jeunes marques organisée par Amandine, la fondatrice de The Réunion. Alors, j'ai voulu comprendre avec elle, mais qui est vraiment cette Parisienne ?
La Parisienne, c'est quelqu'un qui est né à Paris et qui est né avec un sens inné du style. C'est quelque chose qui est tellement naturel et spontané que je pense que ça fait un peu envie, parce que même en travaillant la question, c'est difficile d'atteindre ce niveau de coiffé-décoiffé, de chic naturel.
Sur le coiffé-décoiffé, je me sens assez concernée là ce matin. Alors, pour le coiffé-décoiffé, surtout décoiffé, pour ma part. Donc, si je comprends bien, on est toujours sur le mythe Caroline de Maigret, Inès de la Fressange. Une belle brune filiforme, très grande, avec un panier en osier, un vélo électrique acheté chez Ancel Marcel à plusieurs milliers d'euros et un air tout à fait naturel, malgré une bonne heure de préparation. Alors, j'ai rencontré à la suite Charlotte, suédoise, née à Paris, donc parisienne d'adoption, créatrice de la marque Linéa Lund, qui sont de très jolis cachemires. Et je me suis dit peut-être qu'elle voyait autre chose derrière le mythe de cette Parisienne.
En fait, la Parisienne, elle est chic, mais snob, mais sans être hautaine. Je pense que ça, pour moi, c'est la nuance. Être snob parce qu'on aime les belles choses et qu'on apprécie les belles choses, surtout, c'est pas forcément négatif.
D'accord. Et la Suédoise, elle est comment alors ?
La Suédoise, alors elle est sportive, humble, sympathique et puis je pense qu'elle est très décomplexée.
Sophie, est-ce que vous pensez qu'il y a une Parisienne autour de la table, là, d'ailleurs, après tout, maintenant que votre enquête est quasiment au bout, là,
laquelle ? Je dirais Philippine, pour une raison très simple.
Elle se cache, je pense qu'elle est Parisienne.
Non, parce qu'en
fait, elle n'assume pas.
Elle a porté toute l'esthétique du goût du moche. Et donc là, je me suis dit, forcément.
Je me suis reconnue dans toute la chronique. Mais c'est parce qu'elle a le style détendu, Philippine.
Non, elle est totalement. Après, attention, on est un peu toutes des Parisiennes d'adoption aujourd'hui, mais là, on est un peu sur un cliché, évidemment, de la Parisienne. Alors, comparativement à la Suédoise, elle a l'air quand même vachement plus détendue.
Ah oui, complètement.
Vous êtes d'accord, Julia ?
Complètement.
Vous êtes parisienne, vous, Julia ?
Moi, je suis née à Paris, mais j'ai...
Vous avez des origines...
Ailleurs ? Non. Ouais. Je suis née à Paris, mais je ne ressemble pas à une Parisienne.
Ouais, ça sent un peu l'huile d'olive,
c'est
quand même,
ça,
excusez-moi.
Je vous trouve quand même très détendue et très cool pour une Parisienne.
Ah, je vous remercie.
Voilà, alors la Suédoise, c'est normal qu'elle soit plus cool. Évidemment, elle fait de la gym, elle sait monter des meubles Ikea sans se casser un ongle et elle mange quand même du saumon mariné sur du pain noir au petit-déj. Forcément, il n'y a pas de quoi être snob dans un contexte pareil. Alors, j'ai croisé ensuite une influenceuse qui, donc, est comme nous, une Parisienne d'adoption, Amélie, et qui n'est pas née à Paris. Et je lui ai demandé s'il y avait des petits tips pour devenir parisienne, pour celles qui ne le seraient pas.
Marcher dans la rue, lâcher ses cheveux, prendre un vieux panier de plage, aller manger une glace au jardin des Tuileries, regarder le soleil briller, boire un verre de vin en trop. Voilà, c'est un peu tout ça, être parisienne.
Ok, il va falloir qu'on s'entraîne, Mélanie.
Vous avez compris, les filles. Alors, ouais. Ça va être compliqué de rester totalement chic avec un verre de vin rouge dans un parc et décoiffé. Faites bien attention.
C'est
quand même.
Ça. C'est pour ça que je suis très fière d'être
sous la perpignanaise. Merci beaucoup, Sophie.
Merci
à vous toutes. On a passé un très bon moment grâce à vous trois. Voilà, bien fait pour vous. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère qu'on vous a fait du bien. Et c'est pas fini parce que demain, Julia, on récidive dès 11h. Quel sera le programme demain ?
Alors, demain, Mélanie, on va parler de l'art, de notre côté créatif. Et oui, on en a tous un côté créatif. Et vous savez quoi ? On va se poser cette question, comment l'art nous fait du bien même si on n'y connaît rien. Ça peut changer notre regard sur la vie et nous rendre tout simplement plus heureux. Et comme c'est tout ce que l'on vous souhaite, eh bien on va en parler demain.
Et puis Julia, il y aura encore de nouveaux sujets tendance, de la santé, du bien-être. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur notre compte Instagram ou encore sur le répondeur de l'émission au 3921. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.